Merci encore pour l'invitation. C'est tellement une réussite ces réunions. Ça montre à quel point il y a une demande et un besoin de formation et de travail ensemble. Bon, ça me fait vraiment super plaisir d'être là. C'est un sujet qui me préoccupe particulièrement et je dois vous dire que en le préparant, j'ai fait deux ou trois crises de colère sur les résultats que je vais vous énoncer initialement. On a tous des perceptions dans l'accompagnement des femmes, on a tous des projets dans l'accompagnement des femmes et tous voilà, une idéologie ou pas. Moi, elle est, je pense, très en colère, mon idéologie en ce moment, pour plein de raisons. Et donc, je vais vous la partager aujourd'hui. On va parler des femmes et que des femmes. Et pour commencer, on va essayer de définir ce qu'est une femme. Et alors, quelle surprise cette définition. Donc là, j'ai brillé. J'ai ouvert l'Académie française, le dictionnaire de l'Académie française, et j'ai marqué c'est quoi la définition d'une femme. Donc une femme pour l'Académie française, donc pour les hommes hein, qui ont écrit cette définition avec un petit H, c'est un être humain qui est défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. À partir de là, je me suis acheté une corde, du Prozac, et je me suis dit, je ne continue pas cette présentation, il va falloir que je partage cet événement. Donc je ne savais pas que j'étais née sur Terre avec un utérus exclusivement pour me reproduire. Autant avoir une activité sexuelle, je trouve ça plutôt intéressant, autant le faire exclusivement pour faire des gamins, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Et puis je pense que je suis beaucoup plus pertinente quand je ne suis pas maman. Il n'y a qu'à demander à mes enfants. Ils ont bien compris que ce n'était pas dans la maternité que j'étais la meilleure. La preuve, je la fuis. Je passe ma vie à travailler. Donc on va définir que la définition d'une femme, ce n'est pas juste un utérus sur pattes, même s'il serait intéressant d'en discuter, j'en conviens. Et que être une femme, alors que cette définition, pardon, ça crée des stéréotypes de genre. Vous allez voir les autres stéréotypes de genre partagés par les médecins. Et là, ce n'est pas une appropriation offensante parce que malheureusement, je suis un médecin, donc je suis obligée d'appartenir à cette communauté. Et du coup, cette définition participe aux stéréotypes de genre, participe aux discriminations et participe à tout ce qu'on va pouvoir voir. Être une femme, c'est se définir comme ça. C'est se définir comme une femme, en fait, qu'on soit une femme cis, c'est-à-dire avec ce genre assigné à la naissance, qu'on soit une femme trans, c'est-à-dire que ce n'est pas ce genre assigné à la naissance, ou qu'on soit non-binaire et qu'on définisse qu'on va se faire appeler par un pronom « elle ». Donc être une femme, c'est tout ça, et ça n'est pas du tout le fait d'avoir un utérus et de pouvoir concevoir. Donc cette définition, ces inégalités... entraîne des inégalités sociales. Et là, je suis allée sur Oxfam. Je vous conseille, si vous voulez être énervé. Au cas où vous auriez été calme ce matin avant de venir à la présentation, je vous conseille ça. Donc, à la naissance, il y a plus de garçons que de filles qui naissent. Mais globalement, en population générale, on est plus de femmes. On est 51% de femmes, soit plus 2,2 millions de femmes en France par rapport aux hommes. Et c'est ce qui se joue aussi au niveau mondial. Et malgré ce... Au niveau mondial, les hommes détiennent 50% de plus de richesses que les femmes. Les salariées françaises, donc les femmes qui travaillent en France, gagnent en moyenne 22% de moins que les salariés français. Donc là, c'est pareil. J'ai failli fissurer encore une fois parce qu'on pourrait se dire bah, c'est lié à quoi ces écarts de salaire. En fait, il y a quand même, en équivalent temps plein, un écart de 14,2%, c'est-à-dire à temps de travail égal, il y a quand même une baisse du niveau de salaire avec une augmentation des inégalités salariales à la retraite qui se majorent. Et en fait, on sait que la majorité des travailleurs pauvres en France sont des travailleuses pauvres en France, sachant que Oxfam, je ne sais pas si vous avez un peu lu des propos sur Oxfam, mais Oxfam milite énormément pour que le travail domestique soit rémunéré et considéré en tant que tel, puisque les femmes, la plupart du temps, exercent un travail à temps partiel pour s'occuper des tâches domestiques, soit par choix, soit par non-choix. Et ces tâches domestiques sont effectuées par les femmes pour 3/4 d'entre elles, et quel que soit le niveau professionnel, et à niveau professionnel égal avec leur conjoint ou avec le coparent, les femmes continuent d'exercer en 2026 3/4 des tâches domestiques qui font que, du coup, elles sont sur des emplois plutôt à temps partiel et moins rémunérés, donc moins de retraite derrière. Et ce temps passé à faire des tâches domestiques n'est pas considéré comme un travail et n'est pas rémunéré. Ça, toutes ces discriminations, tous ces stéréotypes amènent une inégalité d'accès aux soins. Et d'après l'OMS, l'OMS a défini c'est quoi dans le monde, au niveau mondial, les populations dites vulnérables. Vulnérables, ça ne veut pas dire qu'elles sont fragiles, hein. C'est loin de moi cette idée. Je pense qu'il n'y a pas plus puissant que les femmes. Mais en revanche, il y a une inégalité d'accès aux soins, et c'est ça, quand l'OMS parle de vulnérabilité, c'est que les femmes ont moins accès aux soins que les hommes pour de multiples raisons. Il y a d'autres raisons parfois d'avoir une diminution de l'accès aux soins. Les personnes en situation de migration également ont faible accès aux soins. Les personnes qui utilisent des substances ont un faible accès aux soins. Et les personnes de la communauté LGBTQIA+, sont également considérées par l'OMS comme des personnes vulnérables vis-à-vis de la diminution de l'accès aux soins. Donc vous imaginez une femme lesbienne en situation de migration, la vie n'est pas extrêmement simple pour elle. Et pourquoi il y a cette diminution d'accès aux soins ? Il y a une diminution de l'accès aux soins, beaucoup pour de nombreux freins que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais pour finir de faire la peau à certains médecins, il y a des stéréotypes de genre qui s'appliquent à la médecine, et véritablement qui sont incarnés, c'est comme s'il y avait une intériorisation de ces stéréotypes, une intériorisation de ces discriminations, à la fois par les personnes concernées, c'est-à-dire les femmes, et à la fois par les médecins. Je vais vous citer deux exemples qui sont mais cruels. Le premier exemple, c'est l'infarctus du myocarde, première cause de mortalité chez la femme. Infarctus du myocarde, on considère à tort que c'est une pathologie masculine. Pourquoi l'infarctus du myocarde serait considéré comme une pathologie masculine ? Parce que l'infarctus du myocarde est étiqueté comme une problématique en santé en lien avec la charge de travail et le stress. Et les femmes n'ont pas de charge de travail et ne sont pas stressées puisqu'on se fait la manucure. Vous voyez ? Et donc, du coup, une femme va beaucoup moins consulter pour une douleur thoracique parce qu'elle va se dire « Ah, c'est que je suis stressée, la société dit que je suis stressée parce que j'ai un utérus. » Et donc, elle ne va pas aller consulter. Et auquel cas, elle va consulter. Il y a eu des études qui ont été faites dans des urgences de cardiologie en Grande-Bretagne. Une fois sur deux, on se trompe de diagnostic alors qu'elle est effectivement en train de faire un infarctus du myocarde. Donc, il y a un retard au diagnostic et elle meurt deux fois plus que les hommes pour un infarctus du myocarde pris au même stade de la maladie. Donc voilà un stéréotype de genre qui est un petit peu problématique. Stéréotype de genre autre, la dépression. La femme est fragile, donc la femme est dépressive. Et on est tellement fragile. Moi, le premier qui me traite de fragile, il prend un fer à repasser sur la gueule. Si j'avais un fer à repasser, mais je n'en ai pas parce que je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, il prend autre chose sur la gueule, mon ordi, probablement. Parce que c'est vraiment ce dont je me sers le plus dans la vie. Donc, la dépression. La dépression serait une maladie féminine. Et pourquoi serait une maladie féminine ? Parce qu'on a des hormones. Alors, je vous rappelle que les hommes ont des hormones aussi, hein, qui ne sont pas les plus agréables la plupart du temps, ne serait-ce que par l'odeur des chaussettes qu'ont nos garçons matures. On adore hein, quand c'est l'odeur des chaussettes de nos garçons, on aime un peu moins quand c'est l'odeur des chaussettes de nos mecs. Quand c'est nos fils, c'est bon. Donc, elles vont être accusées d'être dépressives parce qu'elles ont des hormones. Toutes les études scientifiques sont totalement unanimes pour dire qu'il n'y a pas grand lien majeur, en tout cas le poids de l'imprégnation hormonale dans la dépression, elle n'est pas si majeure que ça, et que, en fait, ce qui fait que les femmes vont effectivement avoir des taux de dépression beaucoup plus hauts que les hommes, et c'est une réalité sur le plan épidémiologique. En fait, c'est la multiplication des traumatismes et des vulnérabilités en lien avec un environnement socioculturel, professionnel défavorable que subissent beaucoup plus les femmes, et également en lien avec les violences sexistes et sexuelles, puisqu'au minimum, une femme sur deux subit des violences sexuelles et sexistes dans sa vie. Enfin, l'endométriose, maladie largement connue et décrite essentiellement par les femmes, mais les femmes n'ont quand même été que très tardivement écoutées sur des douleurs en lien avec leur cycle ou en lien avec d'autres raisons, mais essentiellement avec l'endométriose. Et en fait, il a vraiment fallu attendre il y a quelques années de ça pour qu'on reconnaisse cette maladie, qu'on la définisse comme une maladie chronique et que surtout on établisse une typologie d'accompagnement de l'endométriose, puisque si une femme avait mal quelque part pendant son cycle, voilà, c'était juste accepté, classique, elle prenait des médicaments et on ne faisait pas cas de ces problématiques-là. Si, du coup, dans ce contexte-là, on sait également que les femmes, on en a déjà parlé, du fait de toutes ces énoncés, sont plus touchées par la précarité économique. On l'a dit tout à l'heure, elles sont une majorité de travailleuses pauvres, essentiellement et souvent dans un contexte de famille monoparentale, puisque les familles monoparentales sont le plus souvent et dans la grande majorité des cas menées par une femme. Elles occupent 90% des emplois en temps partiel. Et du coup, ce manque de ressources amène à un renoncement aux soins également. Et de toute façon, elles ne se priorisent pas dans ce contexte, et une dégradation de l'hygiène de vie de par la qualité de l'habitat, de l'alimentation, etc. Dernière donnée qui concerne les données de la Fédération des acteurs de la solidarité, dont peut-être vous avez lu cette dernière expertise. 87% des SIAO en France ont répondu à ce questionnement vis-à-vis des femmes et du sans-abrisme, avec une grosse majorité des SIAO de France qui annoncent une moyenne, d'une augmentation de 26% de demandes en lien avec des femmes dans la rue. Donc, soit seule, soit en famille monoparentale. 91% de ces femmes de la rue décrivent avoir subi des violences. J'ai du mal à croire qu'on ne soit pas à 100%. Je ne me souviens pas avoir rencontré une femme qui vit dans la rue qui n'a pas subi de violences. Et si on regarde cet article du Cairn sur le sans-abrisme au féminin, il y a vraiment des choses, je vous conseille vraiment de lire cet article qui est vraiment passionnant sur le fait que cette augmentation des femmes dans la rue est visible par vous, c'est une évidence parce que vous êtes sur le terrain et que vous vous en rendez compte, mais la société ne voit pas ce qui est en train de se passer puisqu'il y a une invisibilisation des femmes qui vivraient dans la rue. Et par ailleurs, quand les femmes sont en demande d'accès à des logements ou quand on les interroge sur leur capacité à accéder à des logements dans le contexte de l'urgence, elles ont une certaine critique sur l'accueil des logements qu'on peut leur proposer, puisque ces logements seraient basés sur des modèles masculins, puisque systématiquement, c'était une grosse majorité d'hommes qui avaient accès à ces logements, puisque une grosse majorité, et c'est encore le cas, d'hommes sont dans la rue par rapport aux femmes. Donc il y a des choses à inventer. Je suis ravie qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Donc vous allez me dire, je suis addictologue, je ne vous ai toujours pas parlé d'addicto. C'est parti. Là non plus, on n'a pas. Là non plus, on n'est pas trop aidé par rapport à ça. Sur le plan épidémiologique, la fréquence des troubles de l'usage, c'est-à-dire des addictions chez les femmes, quelles que soient les substances, à part les médicaments psychotropes, les femmes ont une prévalence de troubles de l'usage bien inférieure aux troubles de l'usage chez les hommes. Et pourtant, il y a une vulnérabilité beaucoup plus importante chez les femmes pour développer une addiction, et je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, c'est ce qu'on appelle l'effet télescopique. L'effet télescopique, c'est un effet qui est décrit sur le plan médical, qui est décrit scientifiquement, à la fois sur ce qu'on appelle des études précliniques, c'est-à-dire pas chez des femmes humaines, chez des femmes animales, et avec vraiment des phénomènes que je ne vais pas complètement vous détailler aujourd'hui, mais qui sont ultra passionnants, en lien avec l'imprégnation hormonale, et notamment l'œstrogène, qui est en fait extrêmement renforçateur de l'effet attendu des substances que l'on va consommer. Et donc, l'imprégnation œstrogénique est un facilitateur de craving, est un facilitateur d'appétence pour une substance, parce que ces substances vont être majorées sur les périodes de notre cycle, enfin les effets de ces substances vont être majorés sur les périodes de notre cycle où le rapport œstrogène-progestérone est en faveur de l'œstrogène. Et du coup, on estime qu'une femme qui va consommer une substance de manière régulière, en fait, va avoir plus de risques de développer un trouble de l'usage, et le délai entre je commence à consommer et je développe un trouble de l'usage chez la femme est bien plus court que chez l'homme. Donc il y a un accès au trouble de l'usage chez la femme largement facilité. Donc évidemment, il n'y a pas que cette raison-là, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête sur le fait que si on cumule d'autres vulnérabilités vis-à-vis des addictions, le fait d'être une femme est une vulnérabilité pour développer une addiction. Je ne reviens pas sur toutes les autres vulnérabilités dont on a parlé, c'est une notion d'intersectionnalité, hein, véritablement, un cumul de vulnérabilités. Et ce stigma sociétal, ces discriminations font qu'à partir du moment où le trouble de l'usage est installé, en fait, ça va de mal en pis pour une personne féminine, puisque par définition, il va y avoir beaucoup plus de culpabilité, beaucoup plus de stigmatisation et véritablement une déconsommation ou un trouble de l'usage qui va se faire cacher et qui va faire que du coup, ça ne va faire qu'accentuer les consommations. Alors on va faire un petit peu substance après substance sans vous faire un catalogue parce que ça va véritablement vous contrarier. Si on regarde l'évolution de la consommation de l'alcool, il y a un delta hein, sur l'ensemble des items, sur les consommations excessives, sur le trouble de l'usage, sur ce qu'on appelle le binge drinking, pardon, c'est-à-dire les alcoolisations ponctuelles importantes. Il y a un delta entre les hommes et les femmes, avec toujours un peu plus d'hommes que de femmes qui ont ces trois typologies de modalités de consommation d'alcool. Mais depuis 10 à 20 ans, ce delta est en train de se retrécir, c'est-à-dire que les femmes sont en train de modifier leur rapport à l'alcool et de se rapprocher des taux de consommation des hommes pour plein de raisons. Alors, j'ai tendance à dire que si on veut l'égalité, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut la chercher, parce que vraiment, c'est ultra préjudiciable pour les femmes, la consommation d'alcool, et beaucoup plus que pour les hommes. En termes de complications médicales, on va en parler. Et là où le delta entre les hommes et les femmes diminue le plus, c'est sur ce qu'on appelle les alcoolisations ponctuelles importantes, les fameux binge drinking, dont vous avez dû entendre parler depuis 10 à 15 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas une consommation d'alcool quotidienne, régulière, etc. C'est je bois une fois, de manière parfois même occasionnelle, mais je bois de manière très excessive. C'est la fameuse biture express. Et ça provient, en fait, on sait qu'il y a environ la moitié des femmes de 35 ans, donc là c'est 23%, mais parce que ça va jusqu'à 44, il y a la moitié des femmes de 35 ans qui ont au moins un binge par semaine, par mois. J'allais dire Dieu nous en préserve, mais il n'est pas parmi nous, sinon on le saurait. Ces consommations excessives d'alcool et ponctuelles sont extrêmement préjudiciables pour la santé globale de tous les individus, hein, pas que les femmes, mais je vous ai dit qu'on ne parlerait que d'elle aujourd'hui. Et surtout, il provient des modalités de consommation des débuts de l'expérimentation de l'alcool. En fait, les jeunes consomment comme ça, c'est vraiment une évolution, une modalité, une modification de la consommation d'alcool chez les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes consomment essentiellement sur les modalités de binge drinking, et de nombreuses femmes, plus que les hommes, vont maintenir cette modalité de consommation, tout simplement parce qu'il y a moins de temps préservé pour aller faire la fête pour une femme de 35 ans, de fait de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'activité professionnelle, il va y avoir les activités domestiques, et du coup, il y a beaucoup moins de fêtes, donc vu qu'il faut que la fête soit folle, on la fait en excès, ça n'arrive pas souvent, mais du coup, on va la faire à fond. Et la faire à fond, ça veut dire de prendre une mine. Vraiment, il faut qu'on en parle, hein, les copines. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de le faire comme ça. Même si on peut vraiment faire de très très belles fêtes. Et surtout, il faut en faire plus souvent et laisser les gamins à la maison, évidemment. Avec papa. Vous savez, le mec qui vit avec vous. Ou le coparent. Chacun son tour. L'alcool est beaucoup plus délétère chez les femmes, à quantité d'alcool bu équivalente. Et ça, c'est vraiment très pénible, mais c'est une réalité. On a un mécanisme de métabolisation d'alcool et donc de destruction et d'élimination de l'alcool qui est moins efficient. Alors peut-être qu'avec l'évolution, vu qu'on est en train de rattraper les consommations, ben on va rattraper aussi notre système enzymatique. Mais je ne suis pas sûre que ça va nous concerner, nous, ici présentes, hein, peut-être nos arrière, si Donald Trump est toujours président. Ça risque pas d'arriver, mais s'il n'est plus président, on risquerait d'avoir un petit peu des descendants. Donc, on métabolise beaucoup moins l'alcool, ça dure plus longtemps. Notre organisme est soumis à l'alcool, du coup, plus longtemps, avec des alcoolémies plus élevées et plus prolongées. Et puis, l'œstrogène est pro-inflammatoire. L'alcool est pro-inflammatoire. Donc, œstrogène plus alcool, ça fait de l'inflammation. Qui dit inflammation dit augmentation des problématiques en santé et notamment les cancers. Il y a un accès réduit aussi, alors ça c'est des études que je ne vous conseille pas de lire parce que vous allez encore plus vous agacer après la fin de ma présentation. Un des principaux facteurs de réduction de l'accès à la transplantation hépatique quand on a une maladie du foie liée à l'alcool décompensé et qu'il y a une indication formelle de transplantation hépatique avec tous les critères retenus, c'est d'être une femme. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous avez 25% de chance de moins d'être transplantée avec une cirrhose alcoolique à gravité égale d'un homme et à situation clinique, sociale et professionnelle égale d'un homme. C'est une réalité, tous les chiffres le disent. Il n'y a pas du tout le même accès aux soins pour les femmes à la transplantation hépatique. C'est comme ça. Donc, c'est quand même un petit peu préjudiciable. Si vous voyez ici un tableau, je vous le ferai passer parce qu'on ne va pas tout détailler. Vous avez les liens entre alcool et complications somatiques et vous voyez que sur certaines complications, ces complications sont majorées chez la femme, c'est-à-dire sur le risque cardiovasculaire. Les troubles cognitifs sont plus importants. La maladie du foie liée à l'alcool évolue beaucoup plus vite, elle est plus sévère et on est moins transplanté. Les risques métaboliques sont plus sévères et surtout les cancers. Est-ce que vous avez une idée de à partir de combien, notamment vis-à-vis du cancer du sein, on augmente notre risque d'avoir un cancer du sein à partir de quelle quantité d'alcool bu ? Un verre par jour. C'est-à-dire que les seuils de 10 verres par semaine sont déjà largement trop élevés pour les femmes. Ils n'ont pas voulu faire de différence avec la nouvelle nomenclature des seuils excessifs d'alcool, c'est-à-dire 10 portions d'alcool par semaine, 2 maxi par jour et la notion de deux journées sans alcool par semaine. Au-delà de ça, quel que soit le genre, on est dans une consommation excessive d'alcool. 10 verres par semaine pour une femme, c'est trop. c'est déjà trop, parce que c'est trop pour le risque de cancer. Et ce n'est pas les cancers du foie, les cancers ORL, dont vous êtes tous intimement convaincus que alcool et tabac, ça va être risque cancer. Non, l'alcool tout seul est cancérigène, et l'alcool tout seul est cancérigène à partir d'une portion par jour. Et l'alcool est encore plus cancérigène chez la femme, et notamment en ce qui concerne le cancer du sein. Et quand on a déjà eu un cancer du sein, c'est zéro. Le cannabis. Je vous avais dit que j'allais plomber l'ambiance. On ira boire un verre ce soir, les filles, promis. Un verre de... Moi, j'ai fait le dry, j'ai expérimenté le jus de tomate, ça m'a vraiment gonflé. Je suis terminée au thé au jasmin avec mes potes qui enchaînaient les pintes. Je me suis dit, ma vie est sordide, je vais plutôt aller faire de la biblio sur le statut des femmes. Ça va me remonter le moral, tiens. Cannabis, 7,2% de consommation régulière de cannabis chez les femmes, 14% chez les hommes. Donc on est moitié moins. En fait, on a plus de récepteurs CB1. Les récepteurs CB1, c'est les récepteurs centraux, principalement dans le système nerveux central. C'est les récepteurs qui accueillent le THC, c'est-à-dire c'est les récepteurs qui accueillent la substance psychotrope, cannabinoïde, psychodysleptique, et donc les effets vraiment psychoactifs du cannabis. Donc, à quantité consommée égale, les femmes qui consomment du cannabis vont avoir des effets plus marqués psychotropes, ça donne envie à des gens d'en prendre, je vois ça, sur notamment la sédation et malheureusement la fatigue. À quantité consommée égale de cannabis, notre risque cardiovasculaire et notre risque de bronchite chronique et de dyspnée est supplémentaire, comme avec le tabac, il est plus élevé à quantité égale consommée avec les hommes. En ce qui concerne la cocaïne, vous savez à quel point la cocaïne est en train de diffuser globalement dans la société. Les femmes ne sont pas indemnes de cette diffusion de cocaïne. Et malheureusement, toutes les études sont unanimes. Et on a fait récemment une expertise INSERM, et je vous conseille de la lire. On a volontairement fait un chapitre femmes parce qu'on était 2-3 femmes énervées dans l'expertise. Enfin, de toute façon, c'est un pléonasme d'être une femme et d'être énervée. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis jamais détendue par ce sujet, tant que ça n'aura pas changé, et je pense que je serai morte avant que ça change, mais j'élève mes filles pour qu'elles continuent à faire changer les choses. On a plus de complications en santé mentale quand on est consommatrice de cocaïne, on a plus de complications qu'un homme à quantité équivalente, on a plus de complications cardiovasculaires, et on a un taux de mortalité plus élevé quand on est une femme. Et quand on accède enfin aux soins pour un trouble de l'usage de cocaïne et qu'on est une femme, on a un trouble de l'usage beaucoup plus sévère, avec beaucoup plus de complications somatiques et du coup un accès à une efficacité du traitement moindre. Et globalement, on arrive plus tard donc c'est dans les soins, et donc c'est pour ça que c'est un peu normal que ce soit plus sévère avec plus de complications psychosociales. Pour les opioïdes, la consommation d'opioïdes et notamment d'héroïne, elle est globalement stable chez les femmes, équivalente à celle des hommes, 1,2, 1,4, en gros vie entière. C'est des choses qui ne bougent pas trop, ça peut bouger un petit peu sur les médicaments psychotropes, opioïdes, qui vont être un peu plus utilisés par les femmes. Cette consommation d'opiacés en continu et régulièrement, avec ou sans addiction, a un impact sur le cycle hormonal. Il faut savoir que les femmes vont avoir une susceptibilité aux opioïdes plus importante sur les troubles du rythme cardiaque, et notamment pour les prescripteurs ou les personnes ici qui accompagnent des personnes qui sont sous méthadone. Pour une femme, il est ultra indispensable de faire un ECG à l'initiation de la méthadone, puis un mois après l'initiation, et à partir du moment où on dépasse les 100 mg chez une femme, c'est obligatoire de vérifier l'ECG de façon systématique, et je sais à quel point ça n'est pas fait, parce que les femmes ont une augmentation du QT, c'est une zone dans l'ECG, qui est beaucoup plus importante que les hommes, avec un risque de troubles du rythme cardiaque en lien iatrogène, en lien avec les médicaments, et en plus de la méthadone, parfois d'autres substances, qui qui est plus importante. Donc, il y a plus de troubles du rythme cardiaque chez les femmes. Il y a plus d'effets indésirables des opioïdes aussi, comme les nausées, la constipation, les vomissements. Et malheureusement, les femmes qui sont accompagnées pour un trouble de l'usage aux opiacés ou celles qui ne sont pas accompagnées sont à moitié moins d'accompagnement sur les dépistages des cancers systématiques, cancer du sein, cancer du col et cancer du côlon, qui sont préconisés en population générale. Une personne qui a un trouble de l'usage aux opiacés va être beaucoup moins dépistée que le reste de la population. On ne va pas imaginer proposer une mammographie. Eh bien, si, évidemment, qu'il va falloir la proposer. Au total, après vous avoir bien énervé, et j'espère que vous l'êtes, parce qu'il y a des choses à faire, il y a un cumul de vulnérabilité quand on est une femme pour avoir un trouble de l'usage, puisqu'il y a ce fameux effet télescopique que je vous conseille d'aller creuser parce que c'est vraiment extrêmement intéressant, mais également sur le risque sociétal en lien avec la vision qu'on a des femmes. Et ceci va également aggraver le trouble de l'usage. Il y a une diminution de l'accès aux soins pour de nombreux freins que je n'ai pas pu détailler ici, même si je vous en ai donné certains. Et à quantité consommée égale, on a des complications beaucoup plus sévères. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, à part se lamenter et se dire qu'on n'y arrivera jamais? Ben, probablement qu'il y a des choses à faire, chacun à notre place ou chacune, sur le fait d'avoir un impact vraiment très, très, très important sur l'apprentissage des compétences psychosociales dès le plus jeune âge, et pas que chez les femmes, hein, chez les enfants en général, parce que c'est ça qui permet le plus possible de lutter contre les VSS et de lutter contre les troubles de l'usage, d'acquérir la capacité de s'identifier et de dire les choses et notamment dénoncer ou pas son consentement vis-à-vis d'un comportement ou vis-à-vis d'une consommation de substances. Je suis persuadée, même si je passe pour la plus pénible qui soit en réunion, qu'il ne faut rien laisser passer, mais rien, dans aucune réunion en termes de stéréotypes de genre ou en termes d'inégalité sociale. Je vais systématiquement en réunion reprendre quelqu'un quand on va parler du médecin et de l'infirmière et qu'on va genrer le médecin au masculin et l'infirmière au féminin. Déjà, je hurle en chaque réunion, je dis, ou alors on va demander à la secrétaire. Je dis, peut-être qu'on va demander à le ou la secrétaire. Vous voyez, et vraiment, je suis convaincue et je sais à quel point je vais finir par ne plus être invitée dans les réunions. Tant mieux, j'en aurai moins. Mais je reprends les gens quand ces stéréotypes de genre sont énoncés de façon systématique. Et je tente de me reprendre quand je le fais, parce que je le fais aussi, parce que des fois, on est tellement imprégné par ce langage que c'est compliqué. Et puis, il faut créer des lieux dédiés, on aura peut-être l'occasion d'en parler, des accueils privilégiés. Il y a beaucoup d'exploration de lieux en non-mixité, notamment vis-à-vis des femmes et du trouble de l'usage et en situation de grande précarité qui sont explorées. Il y a des travaux, on a une post-doctorante à Montpellier qui a fait sa thèse sur ça en France, donc c'est vraiment intéressant. Elle a fait à Paris sa thèse et elle est venue faire son post-doc dans le service de sciences humaines et sociales du professeur Vizier à la fac de médecine et c'est passionnant de discuter avec elle sur l'intérêt de ces lieux en non-mixité. Parce que moi, j'étais ultra convaincue de la pertinence absolue, je le reste un petit peu, mais globalement, quand on discute avec des femmes en situation de grande précarité usagère, ben, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, des stigmas existent à l'intérieur de cette communauté-là, et qu'un lieu en non-mixité, il faudrait qu'ils soient en non-mixité pour plus que juste le genre. Et donc, c'est vraiment très intéressant de réfléchir à tout ça. Et puis, évidemment, repérer, accompagner les complications, ne pas penser qu'il n'y en a pas, il y en a, et plus tôt. Donc, il existe des lieux spécifiques sur la ville de Montpellier, vous le savez, avec notamment le Carré de la Boutique, dont on va beaucoup entendre parler, et tant mieux, on a beaucoup de chance d'avoir cette structure sur la ville de Montpellier. Et nous, sur le XAPA UTTD, on a une journée de la femme une fois par semaine avec Corinne Chanal. Et puis, on va faire une fois par mois une demi-journée en non-mixité pour véritablement que les soignantes ne soient que
que des femmes et que les personnes accueillies ne soient que des femmes et autres identités de genre. Voilà, j'espère vous avoir bien énervé et que vous garderez cette colère pour faire un petit peu changer les choses. Merci. Que vous avez...